Et on commence bien sûr cette actualité. D'abord, je salue Daniel Pipes qui est là dans nos studios. Bonjour Daniel.
Bonjour Michel.
Merci d'être avec nous. On avait il y a quelque temps eu l'occasion de vous rencontrer. Vous étiez venu pour une grande conférence en France. Là, vous revenez avec un certain nombre d'ailleurs d'activités, pas seulement en France, un petit peu partout dans le monde. On va y revenir dans quelques instants. Bonjour aussi à Guy Millière qui est avec nous.
Bonjour Michel.
Autour de ces studios, écrivain, politologue et économiste bien connu sont Daniel Pipes et Guy Millière. Alors Guy Millière, vous connaissez bien votre ami Daniel Pipes. J'ai envie de vous dire, présentez-le nous en quelques mots.
Daniel Pipes est l'un des grands islamologues américains. C'est un historien. J'ai tout fait pour contribuer à ce que son travail soit mieux connu dans le contexte français. C'est quelqu'un pour qui j'ai une immense estime et il le sait. Et c'est quelqu'un qui a fondé l'un des instituts, même l'institut le plus important pour l'étude du Moyen-Orient, qui est le Middle East Forum, qui est installé à Philadelphie. Mmh. Et il a publié de nombreux livres, il publie des articles dans le monde entier. C'est une référence majeure.
Voilà, référence majeure, Philadelphie, plusieurs livres. Alors, ils ne sont pas tous traduits en français, mais ça viendra, j'espère. Daniel Pipes. Mais en revanche, vous parlez parfaitement le français.
Pas parfaitement,
mais bien.
J'ai le français d'un enfant, parce que j'ai passé 2 ans ici, à Paris et en Suisse romande.
En Suisse romande, ce qui fait qu'on va pouvoir se parler évidemment aussi dans la langue de Molière. La France, qui hier accueillait d'ailleurs l'Iran, le président iranien, toute une délégation, il faut bien le dire, importante. Et cette semaine, d'ailleurs, ce sont des accords commerciaux d'importance qui ont été signés entre Paris et Téhéran, Ilana.
La visite en France du président iranien Hassan Rouhani a permis en effet la signature hier de plusieurs accords commerciaux pour un montant potentiel de 15 milliards d'euros selon l'Elysée. Il s'agit de contrats très attendus par les entreprises françaises quelques jours après la levée des sanctions contre l'Iran.
Et parmi ces contrats, l'Iran s'est ainsi engagé sur l'acquisition de 118 avions Airbus.
Et pas seulement, PSA, Peugeot, Citroën comptent également investir jusqu'à 400 millions d'euros sur 5 ans avec une co-entreprise iranienne et produire à terme 200 000 modèles par an. Par ailleurs, le groupe Total également a annoncé l'achat de pétrole brut à Téhéran. Enfin, à noter que le géant de la construction Bouygues s'est lui aussi engagé pour prendre en charge la conception et la construction du projet d'extension de l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran.
Alors, Daniel Pipes, là, il faut vraiment vous entendre sur ce sujet. C'était le retour en force de la puissance iranienne en Europe, alors sous couvert évidemment de reprise des négociations aussi commerciales, après avoir été réadmis dans le cercle des nations. Est-ce que vous pensez qu'il est tout à fait logique que l'Iran soit venu par exemple en Italie et en France et signer des contrats sans qu'il y ait beaucoup de critiques sur le reste ?
Il y a une logique, sans doute. Mais ce que moi je demande, c'est si ça va marcher. C'est pas évident. Bien sûr, il y a tous ces contrats. 15 milliards d'euros, c'est beaucoup. Mais en Iran, la population pense que la vie s'améliorerait après l'accord de Vienne. Mmh. Ça va améliorer beaucoup. Et moi, j'ai des doutes. Parce que le pétrole se vend ces jours-ci à moins de 30 dollars parce que le système économique en Iran est fracturé parce qu'il y a des éléments très importants en Iran, y inclut le guide suprême, le chef suprême, c'est-à-dire Ali Khamenei, qui sont contre beaucoup ce qui se passe ces jours-ci. Alors, pour toutes ces raisons, je pense que c'est possible. Mm-hmm. Je ne prédis pas, mais je pense que c'est possible.
Et ça veut dire qu'il y a, vous dites, Daniel Pipes, il y a une vraie opposition entre le guide suprême, les durs du régime, et par exemple ce président qui a été présenté, plus ou moins à raison, comme un modéré, Rouhani.
Il n'est pas modéré, mais il est pragmatique. Il y a une différence.
En tous les cas, il a obtenu des résultats. Il faut bien reconnaître que lui qui permet à l'Iran de revenir, d'enlever l'embargo.
Il a obtenu des résultats. Mais je pense que les résultats ne seraient pas assez pour la population iranienne. Et ils seront déçus. Il y aura des conséquences politiques.
Guy Millière ?
Je pense que, je ne sais pas si Daniel est d'accord avec moi, mais enfin, je pense que Rouhani n'est pas celui qui a le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, dans le cadre de ce qui s'est mis en place, de la République islamique, il est entre les mains du guide suprême, précisément de Ali Khamenei. Et donc, à mes yeux, Rouhani est un peu le visage présentable, entre guillemets, d'un régime qui n'est pas présentable, et qui va continuer à créer des effets de déstabilisation dans toute la région, et qui va continuer à financer le terrorisme. D'ailleurs, John Kerry lui-même, il y a quelques jours, a dit « Oui, nous savons qu'une partie de l'argent qui va aller vers le régime de Téhéran est de l'argent qui va servir à alimenter des organisations terroristes. » Donc je trouve ça extrêmement grave, d'une part, que l'accord ait été signé avec un régime dont il est avéré qu'il va continuer à financer le terrorisme et qu'il y a des activités de déstabilisation dans toute la région, du Yémen à la Syrie, au Liban et en Irak. Et je trouve très grave qu'en France, on ait mis sous le tapis persan, l'ensemble de ces questions de droits de l'homme et l'ensemble des crimes qui sont commis sur Rouhani. On parle de modération.
Et
Daniel a raison de dire que c'est un pragmatique, sans doute, mais ce n'est pas un modéré, puisque sous Rouhani, depuis qu'il est président, le nombre de condamnations à mort et d'exécutions, pour ne citer que cet exemple, a été multiplié par deux à peu près.
Voilà, il fallait le rappeler. D'ailleurs, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris. Hier, contre la visite du président iranien Ilana.
Quelques 800 personnes ont défilé en effet de la place d'Enfer Rochereau jusqu'aux Invalides à l'appel du Conseil national de la résistance iranienne. Il s'agit d'une coalition d'opposants en exil. Les manifestants ont dénoncé la fausse modération du président iranien, grande supercherie selon eux, visant à attirer l'aide occidentale à Téhéran. A noter que près de l'Assemblée nationale également, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées hier après-midi à l'appel de plusieurs organisations juives.
Ouais, qui manifestaient donc contre cette venue, en effet, qui n'a pas été commentée au plus haut niveau en France, à l'Élysée, à Matignon, préférait dire que la question des droits de l'homme serait abordée, mais pas de façon publique. C'est une manière originale, évidemment, de communiquer en France. Daniel Paille, puisque vous êtes en France, vous connaissez bien la France et toute la problématique, on va y revenir dans quelques instants. On est dans un contexte, juste de façon symbolique, le commenter cette semaine, l'Iranien arrive le jour de la journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste, comme on dit à l'ONU. Ça fait un peu désordre.
Oui, bien sûr. Et son chef, Khamenei, a publié une vidéo qui dit que les Juifs sont comme les nazis, au même jour. Ouais.
Donc là, vous pensez que la France aurait dû dire quelque chose à voix haute ?
Aura dit quelque chose de voix haute, oui. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec Michel que Rouhani n'a pas beaucoup de pouvoir. Je dis qu'il est comme le premier ministre, par exemple, en Égypte. C'est le président qui a le pouvoir. Et le premier ministre, c'est un fonctionnaire. Mm-hmm. Et aussi, autant en Iran. C'est le face acceptable, quasi acceptable.
Notre invité témoin aujourd'hui, nos invités témoins, Daniel Pipes, qu'on entend à l'instant, Guy Millière. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants. Et oui, avec nos invités témoins, Daniel Pipes, qui vient de Philadelphie, l'islamologue américain, avec Guy Millière, économiste en France, qui sont nos invités témoins. On évoque l'actualité de la semaine et l'actualité du jour. Elle est liée, bien sûr, on le disait il y a quelques instants, à la visite du président iranien de toute une délégation en France. Ça a commencé d'ailleurs le jour de commémoration des crimes de la Shoah, la journée internationale des victimes de l'Holocauste, comme on dit à l'ONU. L'Iran est revenu en force. Alors c'est intéressant de vous entendre, Daniel Pipes, aussi sur cette question. L'Iran apparaît, en tous les cas fait beaucoup de communication grâce à la Russie, comme faisant partie de la coalition internationale qui lutte contre l'État islamique, c'est-à-dire Daesh. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut aussi comprendre le retour au plan international de l'Iran ?
Ça fait partie, oui. Mais moi, je pense que la guerre en Syrie ces jours-ci, c'est une guerre entre Iran, d'un côté, avec la Russie, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais en particulier la République islamique d'Iran, d'un côté, et de l'autre côté, c'est la Turquie. C'est la Turquie qui soutient l'État islamique. Comment l'État islamique peut survivre ? Comment l'État islamique trouve l'argent, comment l'islamique trouve les matériaux médicaux et tout ça.
Et alors, pourtant, la Turquie devient aussi le théâtre, plusieurs fois, d'attentats commis au nom de Daesh. Ouais. Comment on peut l'expliquer ?
Ils ont des relations très compliquées, en même temps que l'État islamique veut conquérir la Turquie, et en même temps, le président Erdogan soutient leur effort. Mmh. Mais c'est l'Iran et la Turquie. Ce sont les deux États musulmans les plus forts du Moyen-Orient.
Ce sont les États les plus forts, mais vous dites qu'aujourd'hui, ces deux États s'opposent. Ces deux puissances du monde arabo-musulman, enfin, ou turc-musulman s'opposent.
Pas arabe, iranien et turc.
Plutôt musulman.
Ouais.
Pas arabe, ça c'est important de le dire. Peut-être un mot guimilière sur... évidemment, sur cette situation, l'Iran a quand même été, on peut dire, adoubé par la Russie dans cette lutte contre Daesh.
Oui, mais bon, la Russie joue son propre jeu, et elle joue son propre jeu parce que les États-Unis se sont, sous Obama, très largement auto-éliminés de la région, ils se sont retirés, et la Russie en a profité pour s'installer dans le vide ainsi créé, d'une manière très opportuniste, ce qui est tout à fait logique.
Là, vous nous dites, c'est la faiblesse de l'Amérique d'Obama.
Oui, bien sûr, c'est la doctrine Obama, la politique d'Obama, qui a permis à la Russie de rentrer à nouveau dans le jeu et de s'installer à nouveau dans la région. Et je dirais que croire que l'Iran est devenu notre allié dans ces conditions est extrêmement naïf. Comme l'a dit Benjamin Netanyahou il y a quelques mois, l'ennemi de notre ennemi est aussi notre ennemi. Et c'est exact qu'on a beaucoup de mansuétude, non seulement vis-à-vis de l'Iran en France, mais aussi vis-à-vis de la Turquie, qui effectivement est un pays qui soutient l'État islamique, et Daniel a tout à fait raison de le dire.
J'ai appris qu'en persan, d'ailleurs, la République d'Iran, ça se dit plutôt l'État islamique d'Iran, donc c'est l'État islamique d'Iran contre l'État islamique Daesh, mais vous diriez en un mot, hein, Guy Millière, que c'est quand même toujours l'Iran qui est le plus grand danger par rapport à ce Daesh ?
Je pense que l'Iran est un grand danger, non pas par rapport à Daesh, mais par rapport à la région. L'Iran est un facteur d'instabilité aussi important, au moins, que l'État islamique dans la région.
Oui, Daniel Pipes ?
Le gouvernement iranien domine 4 capitaux arabes ces jours-ci. Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. Sanaa, c'est-à-dire au Yémen.
Là, vous dites l'Iran.
Oui.
Ouais, c'est important de le préciser. Avec Philippe, nos invités témoins, Daniel Pipes, islamologue américain de Philadelphie. Son Middle East Research est bien connu dans le monde. C'est un des grands spécialistes de cette question. Et Guy Millière, bien sûr, politologue et économiste que nous connaissons bien. D'ailleurs, ils ont écrit un livre ensemble, Face à l'islam radical. Et un des livres de Daniel Pipes qui est traduit en français, c'est aussi L'islam radical à la conquête du monde. L'islam radical à la conquête du monde. On reste un instant sur l'actualité en France. Ilana, justement, en Seine-et-Marne, la compagne de l'individu qui a été arrêté en possession d'armes à Disneyland a été interpellée ce matin.
Cette femme était recherchée depuis hier après-midi. Elle a finalement été retrouvée au domicile du couple. Pas de précision pour le moment quant à un éventuel placement en garde à vue. Son compagnon de 28 ans, en revanche, est lui toujours interrogé. L'homme souhaitait se rendre dans un hôtel du parc d'attractions. Mais dans sa valise ont été repérées deux armes de poing, un Coran et des cartouches. L'individu, converti à l'islam, est à ce jour inconnu des services de renseignement. Pas de fiche S, aucune notion de radicalisation. L'affaire est malgré tout prise très au sérieux, car Disneyland est l'un des endroits les plus sensibles quant à la menace terroriste.
La menace terroriste, c'est le moins qu'on puisse dire qu'on en parle. La France endeuillée depuis les mois de janvier et novembre, bien sûr. Daniel Pipes, l'islam radical est en extension en France, indépendamment de ces actes de terrorisme violents ?
Si, et moi je dirais que l'islam radical, qui est pacifique, qui est politique, qui entre les écoles, les cours de loi, les médias, le parlement, ça c'est plus important et plus dangereux à la fin du jour que l'islam radical violent.
Mmh.
On peut tuer les gens, mais ça ne leur aide pas. Entrer aux médias, par exemple, c'est beaucoup plus.
Alors justement, c'est intéressant, vous étiez aux États-Unis encore quand il y a eu des épisodes, on peut dire, médiatiques, audiovisuels, on va en citer trois, il y en a eu un sur Europe 1, mais enfin sur France 2, la télévision publique française, Parole des Actes, où une téléspectatrice, en tous les cas, qui était invitée sur le plateau de France 2, a répondu à Alain Finkielkraut, en fait, présentée comme une femme apolitique, une professeure de banlieue, a débité un discours extrêmement dur, extrêmement islamiste, sans que personne lui oppose, au sein de la rédaction de France 2, la moindre opposition. Est-ce que ça vous semble, Daniel Pipes, participer justement de cette stratégie qu'ont les islamistes les plus durs à aller dans des médias en apparaissant comme tout à fait neutre?
Précisément. C'est ça qui est important. C'est que l'islamisme devient normal. C'est une voie, une mentalité tout à fait quotidienne. Ce n'est rien étrange. C'est normal. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui change. C'est pas la violence. C'est le koutoum, c'est les hijabs, les burqas, c'est les barbes, c'est tous ces aspects islamiques qui deviennent français et qui deviennent normal français.
Et ça veut dire qu'on voit peu de résistance, par exemple, soit on invite une personne comme ça sans vérifier, soit on l'invite même escalité, on ne lui répond pas, par exemple sur le plateau de Canal+, à une télévision privée cette fois-ci, l'autre c'était la télévision publique, où un individu peut arriver en disant « je ne dénonce pas les crimes commis par Daesh » sans que lui soit encore apportée la moindre opposition. Et une ministre de la République qui est présente sur le plateau ne dit rien. Ça en dit long sur l'état de la société française, selon vous, Daniel Pipes ?
Je pense que c'est plus dangereux que la violence. Et en particulier parce qu'il n'y a pas de violence, parce que c'est légal. On ne peut pas mettre ces gens en prison parce qu'ils disent cela. Ils peuvent le dire.
Et ça change. Fait partie de leur culture politique, c'est d'aller dans les médias, faire les ce qu'on médias, appelle de l'entrisme.
Aux écoles et partout. Ouais.
Guy Millière ?
Oui, Daniel a tout à fait raison. Il rentre aussi dans les milieux de la justice. Et il y a dans l'islam quelque chose qui s'appelle dawa, qui signifie en arabe invitation. Il y a une volonté d'inviter, de faire du prosélytisme, d'attirer vers l'islam, mais de rendre un certain discours normal, légitime, de le disséminer petit à petit. Et on voit qu'effectivement des discours qu'il y a une dizaine d'années encore auraient été considérés comme strictement intolérables et choquants peuvent maintenant se tenir. Il y a un effet d'accoutumance qui monte et qui ne s'arrêtera pas si on ne dit pas le holà. Et il y a un effet d'intimidation aussi. Tous les discours qui se tiennent sur l'islamophobie, entre guillemets, sont des discours qui visent à intimider tout interlocuteur. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a encore 10-15 ans, il était possible de tenir des discours critiques sur l'islam à la radio, à la télévision. C'est de plus en plus difficile, pour ne pas dire impossible, parce que dès qu'on commence à les tenir, on se fait accuser d'être raciste, islamophobe, entre guillemets.
Alors vous êtes, vous, justement, Daniel Pipes, islamologue, donc spécialiste de cette question de musulmane au plan politique. Vous êtes d'ailleurs arabisant, vous connaissez ces questions. Est-ce que vous avez vu l'évolution, on peut dire, dans votre travail, qu'aujourd'hui, à une certaine époque, on pouvait critiquer l'islam, comme toutes les religions, vous pouvez critiquer aussi l'islam politique, c'est ce que vous faites, et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile ?
Oui, ça a commencé en 1989, avec l'affaire Rushdie, quand Ayatollah Khomeini a dit que Salman Rushdie, qui habite en Angleterre, ne peut pas parler au sujet du prophète de l'islam. Et il est condamné à mort. Dès ce temps, ça fait quoi,
25 ans, 26 ans,
on a toujours peur. Il y a des gens qui ont peur, au moins. Et c'est difficile à discuter l'islam comme les autres religions, les autres.
Vous-même, sujets. Vous êtes un professeur d'université, vous êtes un intellectuel, vous réfléchissez à ces questions comme un universitaire. J'imagine que ces derniers temps, c'est plus dur, on vous critique durement, sous prétexte que vous osez, je crois, parler de l'islam, l'islam politique.
Moi, je ne critique pas l'islam, la religion. Je critique l'islamisme, l'idéologie. je trouve que l'islamisme, c'est comme communisme et fascisme. C'est un mouvement totalitaire. Et je le critique directement, souvent. Et c'est toujours possible. Nous le faisons ici. Mais il y a une opposition qui devient de plus en plus forte.
Qu'est-ce qu'il faut faire, si je puis me permettre cette question aussi simple que compliquée? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Vous enseignez, vous parlez, vous faites des conférences, vous répondez aux médias.
Il faut enseigner, parler, faire les conférences. C'est ce qu'il faut. Il faut la voix.
Donc il faut dialoguer aussi avec ces gens-là, comme on dit, ces intégristes, ces islamistes, c'est parfois ces extrémistes.
De temps en temps, oui. Mais c'est ça, ce n'est pas ça qui est important. C'est éduquer les gens. Alors qu'il y a un débat ouvert au sujet de l'islamisme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces buts, ces méthodes? Ça, c'est l'important. Et ça devient de plus en plus difficile.
Il y a en France, on le parlait de, évidemment de ces phénomènes d'islamisme très désagréables, la visite de l'Iran le jour de la Shoah. On pourrait terminer notre émission quand même par une bonne nouvelle. La France est aussi... Pierre Nora, un intellectuel d'origine juive, qui accueille sous la coupole à l'Académie française un autre intellectuel juif qui est Alain Finkielkraut, le philosophe français. Ça s'est passé hier, Ilana.
Alain Finkielkraut avait été élu en 2014 au premier tour par 16 voix sur 28 à l'Académie française, muni de son épée surmontée d'une vache et de la lettre hébraïque Aleph. Le philosophe français a présenté son discours de remerciement devant les académiciens et un parterre de personnalités. Le grand rabbin de France était présent, notamment Chaim Korsia, ainsi que le premier ministre français Manuel Valls. Alain Finkielkraut a dit penser à ses parents en cette période heureuse de sa vie.
Ouais, ses parents, d'ailleurs, dont le père était un rescapé d'Auschwitz. Ça montre aussi, Daniel Pipes, c'est aussi l'historien qui regarde ces phénomènes, la France, comme dit le Premier ministre ou le Président français, la France sans les Juifs n'est pas la France, voilà, que les Juifs apportent toujours leur contribution, que ce soit en France ou aux États-Unis.
Bien sûr, oui. C'est une contribution très, très importante, très grande. Mais c'est bien que le Premier ministre dise que cela... que la France ne serait pas la France sans les Juifs, mais il faut... Et c'est bien que Angela Merkel dit la même chose à peu près en Allemagne, mais il faut plus que les mots. Il faut la défense, il faut les soutenir, il faut les protéger.
Guy Millière, dernier mot.
J'approuve totalement ce que vient de dire Daniel. Je dirais simplement qu'effectivement, Manuel Valls veut effectivement que la France ne soit pas un pays sans les Juifs. Il faudrait qu'il y ait des actions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus précises et un discours beaucoup plus déterminé pour lutter contre l'antisémitisme et voir que l'antisémitisme actuel, ce n'est pas seulement un antisémitisme d'extrême droite, c'est-à-dire pas celui-là qui fait des crimes actuellement, mais un antisémitisme marqué par l'islam radical.
Merci en tous les cas Guy Millière d'être venu nous voir. Merci à Daniel Pipes qui continue sa tournée un petit peu partout en Europe. Pas seulement en Europe, d'ailleurs dans le monde. Je rappelle le livre « L'islam radical, la conquête du monde » qui est traduit en français et celui avec Guy Millière face à l'islam radical. Merci infiniment d'avoir été nos invités témoins dans ces studios de Radio J.
Merci à vous.
Radio J, 94.8.